Bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième Facebook Live consacré à la campagne présidentielle. Avec nous aujourd'hui Vincent Varlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc militant pour Lutte ouvrière et candidat pour les législatives dans la première circonscription de la Marne. Donc avec nous, vous êtes présent aujourd'hui avec nous, pardon, pour répondre aux questions que les internautes vous ont posées toute cette semaine sur nos réseaux sociaux ou par mail. Moi, ce que je vous propose, on est ensemble pendant 20 minutes, on va commencer tout de suite. Alors, c'est une question qui devient un peu traditionnelle pour ces Facebook Live. On débute toujours par quelles seraient les trois premières mesures de votre candidate, donc Nathalie Arthaud, si elle était élue présidente de la République. Les trois mesures prioritaires dans son programme.
Alors, déjà, ce qui est certain, c'est que si Nathalie Arthaud était dans la perspective d'être élue présidente de la République, ça voudrait dire que la situation sociale dans ce pays aurait beaucoup changé. Et ça voudrait dire aussi que le rapport de force entre le patronat et le monde du travail aurait considérablement évolué. Ça voudrait probablement dire que les travailleurs sont rentrés en lutte dans des mobilisations collectives. Et ça veut donc dire, on l'espère, qu'ils pourraient s'emparer des mesures qui sont mises en avant par Nathalie Arthaud dans cette campagne. Je détacherai trois mesures principales, effectivement, qui visent à répondre aux problèmes principaux subis par le monde du travail, à savoir le chômage et les bas salaires. Pour répondre au problème du chômage.
Alors, justement, comme ça, j'enchaîne tout. Enfin, c'était la première question qui suivait. Donc, que prévoit Nathalie Arthaud pour le chômage? Comme ça nous fait une pierre deux
Eh
coups.
bien, on prévoit une mesure de bon sens, qui serait l'interdiction des licenciements et des suppressions de postes, et la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire. Il n'est pas admissible que dans cette société, on puisse laisser à des multinationales comme la BNP Paribas, qui fait 7 milliards d'euros de profit, la possibilité de fermer 200 agences et de mettre des gens dehors. Il n'est pas possible d'accepter que SFR, dont le PDG Patrick Drahi a vu sa fortune multipliée par deux, hein, sa fortune personnelle est passée de 5 à 12 milliards d'euros en 2016, c'est pas possible qu'il puisse supprimer 5 000 postes. Nous, ça, on l'interdirait, 5 000 postes à SFR, c'est un tiers des effectifs. Ça veut donc dire que un salarié sur trois de SFR serait parti à terme de l'entreprise. Donc ça, il faut l'interdire, il faut l'empêcher. Et puis, il faut aussi répartir le travail entre tous, parce que ce n'est pas admissible qu'on ait 6 millions de chômeurs dans ce pays qui donneraient tout pour avoir un travail, pendant que ceux qui en ont un se crèvent au boulot. Hein, on a une explosion des cadences, on a des conditions de travail qui sont dégradées, on a des travailleurs qui ont des TMS parce qu'ils ne peuvent plus suivre les cadences qui leur sont imposées, parce que les entreprises veulent faire du fric coûte que coûte. Et bien ça, on y met fin en interdisant les licenciements et les suppressions de postes. La deuxième mesure, ça serait une mesure salutaire en matière de pouvoir d'achat. Hein. Et notamment, on a deux mesures principales qui sont l'augmentation générale des salaires de 300 euros net pour tous et un SMIC qui serait à 1 800 euros net. On pense que dans ce pays, pas un salaire, pas une pension ne doit être inférieure à 1 800 euros net. Pourquoi? C'est tout bête. Une fois que vous avez payé votre loyer, une fois que vous avez payé l'essence pour aller au travail ou votre abonnement de transport, quand vous avez payé le gaz, l'électricité, les impôts, votre mutuelle, l'assurance, que vous avez payé la traite de votre voiture, votre alimentation, si vous n'avez pas 1 800 euros par mois, qu'est-ce qui vous reste ensuite pour vivre? Qu'est-ce qui vous reste pour profiter des loisirs, pour vous rendre au restaurant avec vos amis, pour aller au cinéma? Qu'est-ce qui vous reste pour vous habiller? Comment vous faites pour réparer un appareil électroménager qui tombe en panne si vous n'avez pas ces 1 800 euros? Donc nous, oui, on demande que les salaires et les pensions soient augmentés et arrivent à 1 800 euros net par mois. Et la dernière
Et la
mesure,
dernière.
pour aller vite, c'est le contrôle des comptes par les travailleurs, le contrôle des comptes des entreprises et la levée des secrets des affaires. Ça permettrait aux travailleurs de se rendre compte que de l'argent dans cette société, il y en a. Ça serait l'exact contraire de ce qu'on est amené à nous dire continuellement, à savoir qu'il n'y aurait pas d'argent dans les caisses, qu'on ne pourrait rien faire, qu'il faudrait se résigner. Et bien, si les travailleurs pouvaient mettre le nez dans les comptes des entreprises, ils se rendraient compte que de l'argent, il y en a. Ils verraient comment cet argent transite et qui sert avant tout aux actionnaires, à leur remplir les poches. Et on verrait par quel circuit ça transite. Et ça permettrait aux travailleurs d'être prêts à pouvoir mettre en avant leurs revendications.
Alors, dans les réponses que vous avez formulées concernant les trois mesures principales prises par Nathalie Arthaud si elle était élue présidente, on va bien sûr vous questionner sur le comment vous allez mettre en place. Donc, en ce qui concerne la lutte contre le chômage, vous avez indiqué interdire les licenciements pour favoriser justement l'emploi et ne, éviter les destructions d'emplois. Comment vous contraignez les entreprises à interdire les licenciements? Par voie législative, par comment?
Et bien, de toute façon, les choses se font avant tout dans le cadre d'un rapport de force. Nous, on ne pense pas qu'effectivement, il y a un décret qui va tomber et qui contraindrait les entreprises à le faire. Il y a plein de lois dans ce pays qui sont votées et qui ne sont pas respectées, de façon générale, notamment en matière d'égalité de droits entre les femmes et les hommes, par exemple. Mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Donc, nous, on pense que c'est un rapport de force. On pense que les travailleurs doivent imposer, par leur lutte, l'interdiction des licenciements et des suppressions de postes.
Donc, c'est-à-dire à chaque menace de licenciement dans une entreprise, il y aurait un rapport de force suffisant pour faire marche arrière dans les plans sociaux dans les...
Eh bien, en tout cas, il faudrait qu'il existe. Ça, c'est absolument nécessaire. Et si Nathalie Arthaud était aux responsabilités, encore une fois, ça nous amènerait à nous placer dans une situation qui serait complètement différente d'un point de vue social. Eh bien, l'entreprise qui refuserait, elle serait expropriée. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si Patrick Drahi et ses billières veulent virer 5000 personnes de SFR, ben Patrick Drahi perdra SFR et ça sera récupéré, ça sera exproprié. On ne peut pas laisser...
Et ça reviendra à qui alors ?
Ces grands patrons, à l'État. Ce serait l'État qui gérerait ces entreprises. Et ce serait d'ailleurs, sans aucun doute, bien mieux géré qu'actuellement. Et ça serait géré différemment, non pas dans un objectif unique de profit, mais dans un objectif plus général, pour l'intérêt collectif.
Mais pour bien comprendre, comment l'État peut exproprier comme ça une entreprise ? En tout cas, un patron, une entreprise à son patron et à ses actionnaires.
Eh bien, si l'entreprise en question ne respecte pas les directives et la loi, eh bien, cette entreprise, elle se verra de facto expropriée. Encore une fois, le problème, c'est de savoir quels sont les besoins des travailleurs. Dans cette société, les travailleurs, ils ont besoin d'un emploi. Ils ont besoin d'un salaire pour vivre dignement. Eh bien, les patrons, eux, ils ont des profits à milliards. Ils ne savent même pas quoi en faire. Ils les dépensent dans des choses absolument démesurées pendant que les gens crèvent de faim, faute d'emploi. Eh bien, nous, notre camp, c'est le camp des travailleurs. On défend les intérêts des travailleurs et on dit qu'il faut prendre sur les profits faramineux des grosses entreprises, les 75 milliards d'euros qui ont été déclarés par les entreprises du CAC 40 en 2016, on prend sur ces 75 milliards d'euros et on maintient les emplois partout parce que c'est absolument nécessaire que les travailleurs conservent leur emploi. Le chômage, c'est le fléau pour le monde du travail. Il crée la misère morale, il crée les misères financières. Donc il faut y mettre fin. Il faut mettre fin à l'hémorragie des suppressions de postes et interdire les licenciements.
Vous avez également évoqué l'augmentation des salaires, mais également des retraites. Donc le minimum, ce serait 1 800 euros net par mois pour chaque citoyen, chaque Français. Alors comment financer, du coup, où trouver l'argent ?
Eh bien, on le trouve justement là où je vous l'ai dit précédemment, sur les fameux 75 milliards d'euros de profit. Ces 75 milliards d'euros, ce n'est pas les chiffres de lutte ouvrière, hein, c'est les chiffres qui sont déclarés officiellement par ces entreprises du CAC 40. Et elles ont distribué, ces entreprises du CAC 40, 55 milliards d'euros de dividendes en 2016. 55 milliards d'euros de dividendes, il faut se rendre compte que ça représente environ 1,5 million d'emplois à 1 800 euros net, cotisations sociales comprises. Et bien, nous, on pense qu'effectivement, cet argent, ces profits, ils seraient bien, bien plus utiles en allant dans la poche de tous ceux qui produisent ces richesses, parce que ceux qui produisent ces richesses, ce sont les travailleurs dans les entreprises. Et bien, il n'y a pas de raison qu'eux se serrent toujours la ceinture pendant que les patrons, eux, récupèrent les profits qui ont été créés par les travailleurs. Donc oui, il faut aller récupérer ces profits pour permettre l'augmentation des salaires et des pensions de retraite, hein, parce que ce qui vaut pour les salariés vaut évidemment pour les retraités. Quand on a passé sa vie à s'user au travail et qu'on a des pensions de 1 000 euros, comme c'est le cas d'énormément de retraités, on pense que c'est absolument inacceptable. Il y a combien de retraités pauvres dans ce pays ? Il faut y mettre fin également et monter les pensions de retraite.
Et à tous ceux qui peuvent peut-être vous répondre, voilà, l'argent, certes, donné aux actionnaires, peut par ailleurs être réinvesti dans d'autres entreprises et donc faire marcher l'économie française. Vous leur répondez quoi ?
Mais je leur réponds que la part d'investissement réinvesti, la part des profits réinvestis, elle est extrêmement marginale. Les profits actuellement qui sont versés aux actionnaires, ils servent à remplir les poches, ils servent à la spéculation financière. La crise de 2008 qu'on a connue, la crise financière de 2008, dite des subprimes, c'est la conséquence directe d'un système financier qui est totalement dérégulé. Il y a des quantités d'argent qui passent dans ce système financier et qui sont absolument incontrôlées. Incontrôlés. Bon, donc ça, il faut y mettre fin. Et la question de l'investissement, en réalité, c'est un petit peu un paravent pour les capitalistes qui nous disent « bah oui, mais on a besoin de ces prêts pour investir », sauf qu'en réalité, on se rend bien compte qu'ils n'investissent pas. Au contraire, ils sont plutôt en train de fermer des usines pour faire produire toujours plus par ceux qui restent.
Alors, on va sortir de cette rubrique d'emploi, je sais, qui est au cœur du programme de Nathalie Arthaud, mais on vous a notamment posé une question, enfin une internaute vous a posé une question en matière d'éducation concernant l'apprentissage. Donc, que prévoit le programme de lutte ouvrière en matière d'éducation? Est-ce que l'apprentissage sera mis en avant et ne sera pas dévalorisé tel qu'il l'est actuellement? C'est en tout cas ce que pense l'internaute qui vous interroge.
Alors, en matière d'éducation, comme dans beaucoup de politiques publiques d'ailleurs, nous on pense que le problème principal, ce sont les moyens. Qui peut dire que dans ce pays, il y a suffisamment de profs? Il n'y a pas suffisamment de profs, il n'y a qu'à voir les effectifs dans les classes. Hein, moi, je travaille à la direction de l'éducation à la mairie de Reims, donc je suis bien placé pour savoir que les classes sont surchargées dans le premier degré. En ZEP, c'est 25 élèves en moyenne par classe. Quand on n'est pas en éducation prioritaire, c'est 30 élèves par classe. Comment est-ce que les enseignants peuvent assurer une éducation correcte aux enfants en ayant des classes aussi chargées? Donc nous, on pense qu'il faut créer les dizaines de milliers de postes qui sont nécessaires pour faire en sorte que les classes soient moins chargées. De la même façon, on pense qu'il faut augmenter la scolarisation des petits 2 ans, par exemple. Hein, c'est dès le plus jeune âge qu'on peut donner le goût de l'apprentissage et de la vie collective aux plus petits. Donc, allez, créons tous les postes qu'il faut pour limiter les classes surchargées et pour scolariser les plus petits, et on verra que tout un tas de problèmes qui sont mis en avant en matière éducative seront résolus, parce qu'on peut mettre en avant tout un tas d'avancées en matière d'éducation, sauf que si on n'y met pas les moyens nécessaires, en réalité, tout ça reste à l'état de blabla.
Et alors, juste pour être bien sûr d'avoir compris, ça serait 10 000 postes, quoi, d'enseignants ou de personnel éducation confondu, CPE, directeur
Ça
d'établissement
serait des dizaines de milliers de postes partout là où c'est nécessaire pour permettre de faire en sorte qu'on ait des classes qui soient autour de 15 élèves par classe, parce que c'est ça dont on a besoin pour donner un enseignement de qualité.
Et alors, autre question sur la réforme des rythmes scolaires qui a été assez une réforme qui est un peu passée, on va dire, dans la douleur et dont certains candidats à l'élection présidentielle veulent faire marche arrière sur cette réforme et donc l'annuler, on va dire, enfin l'abroger. Votre candidate, votre parti sur cette question précise, quel est son point de vue?
Eh bien, sur la réforme des rythmes scolaires, il en va pareil que sur les politiques éducatives, d'une certaine façon, qui soit probablement plus logique que les enfants apprennent davantage le matin que l'après-midi, parce que c'est le moment où le cerveau est le plus à même d'acquérir les connaissances. Il n'y a probablement pas de doute là-dessus. Après, se pose la question des moyens pour les temps périscolaires. Vous avez des communes qui ont des caisses bien garnies. Hein, si vous prenez Neuilly ou Puteaux, il n'y a aucun problème. Ils ont les moyens de faire des temps périscolaires qui sont intéressants pour les enfants. Et puis les communes populaires, elles, ben, elles n'ont pas les moyens de faire des choses qui sont intéressantes pour les enfants. Ils se contentent d'entasser les enfants dans les cours d'école ou dans les salles de classe et d'attendre que les parents viennent les récupérer. Donc, comme pour les politiques éducatives, la réforme des rythmes scolaires, elle ne peut avoir d'intérêt pour les enfants que dès lors qu'on y met les moyens qui sont nécessaires. C'est un problème d'argent, en réalité. Si les communes n'ont pas les moyens de financer ce type de réforme, il est absolument impossible qu'on puisse en tirer le moindre bénéfice.
Donc la solution, ce serait que ce soit l'État qui finance, ou en tout cas qui donne des dotations en fonction des revenus des communes.
Oui, il faudrait qu'il y ait davantage d'argent qui soit attribué aux communes pour leur permettre de faire en sorte que ce service public fonctionne mieux que ce qui fonctionne actuellement.
Alors, autre domaine, c'est qui concerne le logement, mais qui est aussi en fait lié à l'éducation, puisque là, la question concerne très précisément l'accès au logement pour les étudiants. Est-ce qu'il y a une mesure de la part de lutte ouvrière qui pourrait améliorer l'accès au logement des étudiants, mais aussi on peut rajouter les jeunes actifs?
Oui, et pour l'ensemble de la population d'ailleurs, nous, on défend l'idée qu'il faudrait créer un service public du logement dans ce pays. Régulièrement, les associations qui défendent le droit au logement pointent le fait qu'il manque des centaines de milliers de logements sociaux dans ce pays. Et nous, on pense qu'il faut les construire en urgence. C'est une nécessité absolue. Et pour ça, on souhaite la mise en place d'un service public du logement qui serait géré par l'État, dans lequel on embaucherait tous les maçons, tous les architectes, les ingénieurs, les techniciens nécessaires pour pouvoir construire ces centaines de milliers de logements qui nous manquent et qui sont absolument indispensables. Logements sociaux qui seraient accessibles évidemment aux étudiants, aux jeunes actifs, qui seraient accessibles à un salaire ouvrier, hein, parce que malheureusement la pénurie de logements est telle que maintenant beaucoup de gens versent quasiment la moitié de leur salaire pour se loger, ce qui est proprement inacceptable. Donc en matière de logement, on pense voilà, qu'il faut créer ce service public, qu'il faut créer par l'intermédiaire du service public les centaines de milliers de logements qui manquent et au besoin réquisitionner les logements vacants.
Et forcer les communes à créer des logements sociaux, enfin, ou en tout cas des logements, parce qu'il y a déjà une loi qui est en vigueur, et on sait qu'il y a même des communes qui acceptent très volontiers de payer des amendes si c'est pour conserver un certain standing de logement et donc ne pas avoir de logements dits sociaux dans leur ville.
Je vous parlais de Puteaux et de Neuilly-sur-Seine tout à l'heure, mais voilà, c'est typiquement l'exemple de ces communes qui refusent le logement social sur leur terre, au prétexte que voilà, il faudrait faire la chasse aux pauvres. C'est comme ça que les choses se font. Alors oui, la loi qui existe et qui impose 20 à 25% de logement social sur le territoire des communes, il faudrait l'imposer, mais c'est la démonstration plus que toutes les lois dans ce pays ne valent pas, ne se valent pas, et que, quand oui, ce sont des lois qui sont faites pour les classes les plus populaires, elles ne sont pas appliquées, et il n'y a absolument aucune contrainte qui est faite pour les maires de ces communes qui n'appliquent pas cette réglementation à l'appliquer. Et nous, je peux vous assurer qu'on est contraindrés, ça c'est certain.
Et alors, le logement, l'accès au logement est problématique encore en France. L'accès aux soins aussi, à la santé, on sait régulièrement, même les médias ou même des parlementaires se font écho de Français qui, voilà, reportent les soins qu'ils devraient avoir par manque de moyens financiers. Est-ce qu'il y a un point du programme de Nathalie Arthaud qui pourrait faciliter cet accès aux soins ?
Bien sûr, nous on pense que l'accès aux soins devrait être gratuit pour l'ensemble de la population, quelle qu'elle soit.
Même les opérations les plus lourdes ?
Bien sûr.
Les opérations de chirurgie esthétique ?
Non, on parle d'opérations qui sont des opérations de santé. Il faut que l'accès aux soins soit permis pour tout le monde. Il faut que les personnels hospitaliers puissent travailler dans des conditions qui soient plus dignes que celles dans lesquelles ils travaillent en ce moment. C'est absolument inadmissible de constater le fait qu'on supprime des lits dans nombre d'hôpitaux de ce pays, on supprime des maternités, on supprime tout un tas de services d'ailleurs partout, pour des raisons d'économie budgétaire. C'est visiblement plus important pour le gouvernement de financer le pacte de responsabilité et de donner 40 milliards au patronat que de financer l'accès aux soins des habitants de ce pays et de traiter dignement les aides-soignantes, les infirmières et les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Dernièrement, les infirmières étaient en grève pour dénoncer, elles avaient raison, leurs conditions de travail. Oui, nous, on les soutient. On soutient les personnels hospitaliers qui dénoncent ces conditions. Et évidemment, indépendamment du fait qu'il faut embaucher massivement dans les hôpitaux...
Combien, à peu près ? Est-ce que le programme de lutte ouvrière est chiffré là-dessus, en termes d'effectifs ?
En effectifs précis, non, mais partout là où c'est nécessaire. En réalité, ce sont les agents qui sont eux-mêmes les mieux placés pour nous dire dans les endroits dans lesquels il manque des postes. Et je pense que ça aboutirait effectivement à ce qu'on ait des dizaines de milliers de postes supplémentaires dans les hôpitaux.
Alors là, on était sur le domaine de la santé. On arrive sur le domaine de l'énergie, mais qui concerne aussi la santé publique, ou en tout cas qui peut préoccuper les habitants qui habitent aux environs. C'est la centrale de Fessenheim, elle fait encore débat ce week-end. Quelle est la position de lutte ouvrière sur cette centrale en particulier, centrale nucléaire, donc qui est basée en Alsace, je le rappelle.
Alors, indépendamment de notre position sur Fessenheim, on a évidemment une position plus globale sur l'énergie nucléaire. Bon. Il est bien évident que l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est dangereuse. Je serais complètement fou et inconséquent si je vous disais le contraire. Mais elle est encore plus dangereuse sous le capitalisme. En réalité, dans une société qui ne vit que pour le profit, laisser aux mains des capitalistes l'énergie nucléaire, c'est un vrai danger. Et d'ailleurs, il est complètement inacceptable qu'EDF limite, pour des raisons d'économie de coûts, les maintenances dans les centrales nucléaires. Ça, nous, on le dénonce, parce que c'est absolument inconséquent pour la sécurité générale. Pour ce qui est de Fessenheim, c'est une centrale qui est vieillissante. Il est probable qu'elle soit amenée à fermer. Mais par contre, nous, dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir des salariés de la centrale de Fessenheim, parce qu'il est absolument hors de question que les travailleurs de Fessenheim subissent l'incurie de la politique de l'État et d'EDF, qui n'a pas prévu de faire fonctionner davantage cette centrale. Donc, si la centrale doit fermer, parce que pour des raisons de sécurité, c'est devenu absolument inévitable, il faudra que les travailleurs de Fessenheim soient traités correctement et puissent choisir ce qu'ils souhaitent faire à l'avenir.
Mais si votre candidate est à la tête de la présidence de la République, qu'est-ce qu'elle compte faire sur les centrales ? Est-ce qu'elle compte les nationaliser dans un premier temps, puis les arrêter dans un second temps ? Est-ce que ça y est ? Quel est votre plan dans cette éventualité ?
Comme dans beaucoup d'autres aspects que j'ai développés depuis le début de l'émission, en réalité, on remettra les moyens nécessaires pour faire en sorte que les centrales qui fonctionnent en sécurité. Et pour ça, eh bien oui, ce sont des embauches à EDF pour faire en sorte que la maintenance soit assurée correctement. Parce que Ce qui se passe dans les centrales nucléaires, on ne sait pas vraiment. De temps en temps, on a des rapports de l'autorité de sûreté nucléaire qui peuvent d'ailleurs être un peu inquiétants, qui nous disent qu'il y a eu des incidents. La population n'est au courant de rien.
Alors, vous remettez du personnel, notamment de maintenance, pour assurer la sécurité, mais est-ce que vous les fermez dans un second temps vous les laissez, au contraire, alimenter en énergie la France, en énergie nucléaire?
Évidemment, il faut continuer dans un premier temps, puisque ça se pose la question de l'énergie de façon plus globale. Quelle énergie pourrait compenser la disparition du nucléaire? Aller progressivement vers une baisse du nucléaire, c'est une chose. Voir quelles sont les énergies qui pourraient être alternatives, c'en est une autre. Actuellement, visiblement, on n'a pas d'énergie qui permettrait de pouvoir compenser intégralement la fermeture des centrales nucléaires. Donc, pour le moment, oui, il faut continuer le nucléaire de façon beaucoup, beaucoup plus contrôlée actuellement. Et on essaiera de voir dans quelle mesure est-ce qu'on développe les énergies alternatives.
Autre thématique qui est attrait au cannabis. Est-ce que, question simple, donc, quelle est la position de l'ouvrière en matière de dépénalisation du cannabis? Alors, et est-ce qu'il y a une position claire du parti sur cette question?
Oui, bon, nous on pense que la pénalisation du cannabis n'a pas de sens. C'est un problème de santé publique, l'utilisation du cannabis en réalité. Effectivement, il y a tout un tas de jeunes qui, du fait de leur mal-être, du fait que cette société ne leur promet que Pôle emploi, des petits boulots, la précarité, les bas salaires, bah oui, ils pensent aller trouver leur bonheur dans des dérivatifs et des paradis artificiels. Et ça, c'est bien dommage, parce que nous, on préférait plutôt qu'ils puissent s'enthousiasmer, qu'ils s'enthousiasment collectivement et qu'effectivement, ils prennent leur destin collectif pour changer cette société, évidemment. Mais bon, comme je l'ai dit, la pénalisation n'a pas de sens. Il faudrait le traiter un problème de santé publique comme l'alcoolisme ou l'utilisation des psychotropes, par exemple. Donc voilà, on n'est pas pour la légalisation du cannabis, mais on est pour sa dépénalisation qui est totalement
d'accord,
efficace.
D'accord, qu'il y a une obligation de soins, peut-être,
il faut augmenter la prévention.
D'accord. Autre question sur la moralisation de la vie politique. Est-ce que le programme de lutte ouvrière prévoit de réduire, voire même de supprimer les indemnités parlementaires?
Alors nous, on pense qu'un élu, il devrait toucher ce que touche un travailleur en moyenne. On prend le salaire moyen d'un travailleur et c'est ce que devrait toucher un élu. Ça permettrait d'éviter les sinécures où les gens font de la politique parce que ça rapporte. Ça permettrait d'éviter les conflits d'intérêts. Et on pense aussi, indépendamment des problèmes salariaux, qu'il faudrait que les élus puissent être révocables. C'est-à-dire qu'il est trop simple qu'un élu fasse campagne, promette tout et n'importe quoi, et qu'ensuite, une fois responsabilité, ils se sentent complètement exonérés jusqu'à la prochaine élection, 5 ou 6 ans plus tard. Donc, on pense que les travailleurs, ils doivent pouvoir être en mesure de mettre leur nez dans les affaires et de pouvoir, révoquer celui qui ne respecterait pas l'engagement qui a été pris lors de la campagne.
Merci. On passe à un autre thème, pardon. Sur la crise des migrants, qui a encore eu un écho funeste aujourd'hui avec l'incendie dans le camp de migrants à Grande-Synthe, donc près de Dunkerque. Que prévoit justement Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, pour l'accueil des migrants et ce qu'on appelle la crise des migrants?
En matière d'immigration, nous sommes pour la liberté totale d'installation et de circulation. On pense qu'on peut et on doit accueillir toutes celles et tous ceux qui ont fui la guerre et la misère, qui ont réussi, en prenant des embarcations de fortune, à traverser la Méditerranée, à rejoindre le continent, et bien si ces survivants qui ont réussi à atteindre les côtes, et bien lui, on pense qu'il faut évidemment les accueillir. C'est le minimum de la dignité humaine. Et on s'insurge contre la politique qui a été menée par le gouvernement socialiste. Quand on voit la façon dont Bernard Cazeneuve a traité le problème des migrants à Calais, en pointant du doigt les migrants comme étant les responsables de la misère des Calaisiens, alors même que les Calaisiens n'ont pas eu besoin des migrants pour se retrouver dans la situation de misère qu'on connaît dans le Nord-Pas-de-Calais. Bah oui, nous, on dénonce toutes les politiques anti-migratoires et on pense qu'évidemment, il faut accueillir ces migrants.
Un point sur la campagne. Il y a des points quand même de convergence entre lutte ouvrière et Jean-Luc Mélenchon, donc la France insoumise. Pourquoi ne pas avoir fait un front commun vous prenez une société, une lutte contre le capital?
Parce qu'en réalité, avec Jean-Luc Mélenchon, on a un certain nombre de divergences plus ou moins importantes.
Et
j'ai envie d'en mettre deux en particulier. Déjà, la première, c'est une sorte d'état d'esprit, d'une certaine façon. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, il dénonce lui aussi le sort qu'il fait à la classe ouvrière, mais il voit les travailleurs comme la classe ouvrière comme une classe abattue, passive, Et pour lui, la mobilisation principale que pourrait avoir la classe ouvrière, ce serait le 23 avril de se rendre dans son bureau de vote, de prendre le bulletin de vote à son nom et d'aller le glisser dans l'urne. Et ça serait terminé pour la mobilisation des ouvriers. Lui, il serait élu et il raserait gratis. Bon, nous, on pense que ça, c'est totalement illusoire de le penser. On pense que les travailleurs, ils n'obtiendront les choses qu'en se mobilisant, que par les luttes collectives, et pas en attendant un sauveur suprême, fût-il Jean-Luc Mélenchon.
Et la
ça, c'est la première divergence. La deuxième, c'est le cours patriotique et souverainiste qui prend dans sa campagne, notamment quand il n'a cesse de dénoncer l'Union européenne. Alors, évidemment que l'Union européenne a été créée pour les intérêts capitalistes, c'est absolument indéniable. Maintenant, laisser à penser que si PSA ferme l'usine d'Aulnay et met 17 000 personnes à la rue, c'est du fait de l'Union européenne. Laisser penser que Patrick Drahi supprime 5000 postes à SFR, c'est du fait de l'Union européenne, que toutes les fermetures d'usines de ce pays, le groupe Vivarte, MIM, enfin bref, toutes ces entreprises qui subissent les licenciements, ce serait la responsabilité de l'Union européenne. C'est évidemment tromper les gens, parce que ce sont les capitalistes bien français qui prennent ces décisions pour des raisons de profit, pour continuer à faire plus de fric. Et donc voilà, c'est tromper finalement les travailleurs que de pointer les faux responsables de la situation.
Alors, on va terminer cet entretien par une question qui est un peu un rituel. On se base en fait sur les sondages du moment pour vous demander, voilà, au second tour, si dans le cas d'un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, pour qui voteriez-vous et est-ce que vous voteriez déjà?
Alors, bon, déjà, la position qui sera prise par Tourière, je ne la connais pas. Ce qui est certain, par contre, c'est que nous, on pense que c'est au premier tour que tout se joue, parce que le deuxième tour, bien souvent, c'est un vote d'élimination. Hein. Le seul moment où les travailleurs pourront faire entendre leur voix, pourra faire entendre le camp des travailleurs, ça sera au premier tour. Et en tout cas, ce qui est certain aussi pour le second tour, c'est qu'on connaît déjà le gagnant. Malheureusement, le gagnant, c'est le grand patronat, parce que quel que soit celle ou celui qui sera élu à la présidence de la République, eh bien, elle ou il mènera une politique favorable au grand patronat. Et donc, les travailleurs devront se défendre pour imposer les mesures nécessaires pour leur survie.
Alors, donc vous avez essayé de ne pas répondre à la question, mais une réponse claire, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou abstention?
Eh bien, on verra en fonction des circonstances. C'est compliqué. En plus, là, vous prenez les sondages, on ne sait pas du tout qui sera au second tour. Ça évolue régulièrement. Donc, en attendant la situation, mais encore une fois, moi, j'appelle les travailleurs à s'exprimer pour leur camp au premier tour en votant pour Nathalie Arthaud.
Très bien. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Vincent Herlet. Quant à nous, on se retrouve pour un dernier Facebook Live. Ce sera mardi prochain, donc mardi 18 avril, à partir de 18h. Le représentant. Merci.